Valérie Laperne, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Ça me fait plaisir.
Valérie, qui est intervenante à la Maison des femmes sourdes de Montréal, on a demandé à Sarah Houle de nous aider parce que Valérie a besoin d'une interprète. Donc, c'est la voix de Sarah que vous avez entendue et voilà pourquoi les petits délais. Je le disais à Valérie, ça fait longtemps qu'on essaie de comprendre un peu suite à une dénonciation d'un sourd américain de difficultés trop souvent appréhendées à travers des arrestations par force policière de personnes sourdes. Puis on voulait savoir comment ça se passe au Québec. Est-ce que, Valérie, vous savez si officiellement les policiers ont une marche à suivre quand ils doivent faire affaire avec une personne sourde? Est-ce qu'on leur a donné une formation?
Dans mon travail à la Maison des femmes sourdes, nous, on travaille avec les victimes, donc on ne travaille pas avec les agresseurs. Donc, à chaque fois que, bon, oui, il y a une victime, on a un protocole avec la police de quartier, notre police de quartier. Donc, quand il y a une femme qui est victime, qui vient à la Maison des femmes sourdes, qui veut faire une plainte, on peut appeler la police de quartier, puis on a une entente avec un agent qui va venir à la Maison des femmes sourdes. Mais vous savez, il y a toujours un délai. De manière générale, les procédures, je les connais pas de manière profonde là, sur les agresseurs, mais nous, c'est vraiment, on se concentre sur les victimes. Ça fait plus de 10 ans qu'on a un protocole qui est établi avec le poste de quartier. Ailleurs, dans les autres quartiers, les femmes peuvent venir, sont les bienvenues dans notre poste de quartier, à la Maison des femmes sourdes, pour faire plainte au poste de notre quartier.
En même temps, vous êtes dans un cadre, ben, je veux pas dire aseptisé, mais un peu plus officiel, un peu mieux organisé. Vous savez, lorsque la victime arrive, vous avez été formé pour dédramatiser un peu et tout, puis mettre peut-être même l'agent de police en confiance dans un contexte où, je sais pas moi, je suis chauffeur et je me fais arrêter sur la route. Est-ce que vous savez comment ça se passe? Si, tiens, je sais pas si vous avez une voiture, là, mais si vous avez décidé de faire un excès
Oui,
de
j'ai une
vitesse,
voiture.
bon, si vous faites un excès de vitesse, comment ça se passe?
Ben, faut toujours d'abord s'identifier comme personne sourde, dire aux policiers qu'on est une personne sourde. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà interagi avec des policiers. Ça se passe quand même assez bien, mais c'est sûr qu'il faut quand même répéter. On a fait des formations dans différents postes de quartier. On essaie d'éviter que les personnes sourdes soient menottées. Donc, il ne faut pas
Ah oui,
attacher
ben
les
oui.
mains parce que, bon, les policiers disent non, c'est notre protocole, mais il faut quand même s'assurer qu'on s'adapte. D'abord, rassurer la personne sourde, puis lui permettre d'utiliser ses mains, de les mettre, peut-être les attacher à l'avant pour qu'elle puisse communiquer en langue des signes. C'est sûr que si la personne est agressive, elle est frustrée, elle n'a pas d'interprète, les policiers peuvent sentir que la personne elle a de l'agressivité, mais réellement, c'est pas que la personne est agressive, elle veut communiquer avec ses mains. Puis quand l'interprète arrive finalement, ben là, la personne sourde, elle peut exprimer qu'elle n'est pas agressive, mais qu'elle a besoin de communiquer avec ses mains. Donc, bon, si moi je me fais arrêter, par exemple, je vais dire je n'entends pas, je vais utiliser des gestes plutôt que la langue des signes, je vais pointer, puis là, il va dire bon, vous avez fait de la vitesse, mais ça fonctionne quand même assez bien.
OK. Maintenant, si j'ai besoin d'un interprète d'urgence, ça peut prendre combien de temps? J'imagine, c'est pas sur appel, là. Le civet n'est pas ouvert 24 heures.
Non, effectivement, c'est pas instantané. Il y a un bureau, il y a des interprètes d'urgence qui sont disponibles, mais c'est les urgences santé. Donc, si on
Ah,
a besoin
OK.
d'un interprète maintenant, on peut avoir recours au secteur privé d'interprétation. On peut demander au civet s'ils ont personne, mais c'est sûr qu'il faut faire plusieurs appels, essayer de trouver un interprète à la dernière minute, mais c'est sûr qu'il y a toujours des délais. Ça peut être une journée où il y a moins de demandes pour les interprètes, puis par hasard, on peut avoir un interprète qui se déplace assez rapidement, mais ça peut prendre jusqu'à 1 ou 2 jours avant d'avoir un service.
Généralement, si je reviens, disons, à votre type d'intervention plus régulier, là, c'est-à-dire probablement des femmes violentées ou des femmes qui, du moins, ont vécu des difficultés, que ce soit avec un conjoint ou peut-être un voisin, est-ce que disons, l'hésitation à porter plainte vient de l'interaction avec la police ou c'est plutôt parce que, en général, la communauté sourde étant petite, tout le monde sait tout beaucoup trop rapidement. Puis si je porte plainte, qui sait ce qui pourrait arriver?
Oui, effectivement, la communauté est très, très petite, effectivement, c'est un bon point. C'est long souvent avant qu'une personne prenne la décision. C'est pour ça qu'on intervient à plusieurs reprises avec les personnes. On rappelle les droits parce qu'on ne connaît pas nécessairement nos droits. Et puis, ça peut prendre du temps avant qu'on prenne la décision de... T'sais, des fois, ça peut prendre plusieurs semaines, même un mois ou un an, ça
OK,
dépend de
ouais.
la cliente. Et puis quand la personne est prête, ben, on va porter plainte. Mais c'est sûr que oui, on peut briser le lien avec la communauté, perdre nos amis, être obligé de changer, aller dans une autre partie de la communauté, ça peut arriver.
Bon, les histoires d'agression sexuelle, on sait qu'il y a le, je sais pas comment on appelle le rape kit en français, je regarde trop de films en anglais, j'imagine, mais il y a une intervention qui doit être faite presque de façon assez urgente pour amener ça en preuve dans un procès potentiel. Est-ce qu'à l'hôpital, le personnel est généralement assez bien formé pour recevoir une personne sourde?
Non, dans les hôpitaux, c'est un peu la même situation. C'est pour ça que nous, les intervenantes à la Maison des femmes sourdes, on peut, pendant nos heures de bureau, répondre à ce type de demande-là, puis accompagner une femme à l'hôpital. On va appeler le CIVET en urgence santé pour avoir aussi un interprète si possible. Sinon, mais ça va être un interprète privé. S'il n'y a vraiment pas d'interprète, mais on va essayer, moi, l'intervenante, je vais communiquer par écrit, puis après, on va prendre rendez-vous avec un interprète. Mais effectivement, là, c'est important de faire le dépistage immédiatement pour avoir des preuves. Vraiment, on essaye de se débrouiller toujours malgré tout. On aimerait avoir des interprètes rapidement qui peuvent se déplacer, mais c'est pas le cas
Mais
présentement.
je m'y connais pas beaucoup. Est-ce que si ça s'est passé hier soir, vous faisiez mention de durant les heures de bureau, est-ce que ce dépistage-là peut encore être valable en matinée, le lendemain?
On a un délai de 24
OK,
heures pour...
OK.
Oui, il faut se dépêcher le
Oui,
plus vite
mais
possible,
il y
mais...
a du jeu.
Oui, effectivement, on a un petit jeu.
OK. Sinon, diriez-vous que ça s'améliore de ce côté-là? Diriez-vous que, en général, que ce soit le personnel est plus accueillant ou au contraire, peut-être que l'accompagnement, à défaut d'avoir un personnel plus adéquatement formé, au moins l'accompagnement auprès des personnes sourdes est plus présent en cas de situation d'urgence.
Oui. L'accompagnement, on est toujours là, nous, les intervenantes, pour répondre aux besoins. C'est sûr que, bon, à l'occasion, on peut déjà être occupé. Disons que c'est ma cliente, elle va peut-être aller avec une autre intervenante. Et puis, on fait aussi partie de la table de concertation qui sont au courant de nos procédures. Puis, on fait souvent des formations là, à différents endroits.
Quel type de table de concertation s'agit-il?
En agression
Ah oui,
sexuelle,
OK.
nous, on participe à la table de concertation, donc il y a d'autres intervenantes qui peuvent être au courant de l'importance des procédures puis des démarches à faire.
J'imagine qu'un jour, il y aura une entrevue à faire sur... parce que là, on parle de l'encadrement, mais sur l'agresseur ou la personne, puis qu'est-ce qui arrive, puis pourquoi on hésite, parce que j'ai ouï dire que c'est peut-être plus... c'est encore moins courant dans la communauté sourde de porter plainte que dans la communauté entendante. Déjà que souvent, les personnes agressées hésitent à porter plainte. Semble-t-il que c'est encore plus difficile chez les sourds.
Oui, effectivement, exactement. La communauté est tellement petite,
Ouais.
puis on se connaît, tout le monde connaît tout le monde dans la communauté. Donc, si je fais une plainte, puis après je retourne dans un événement de la communauté, mais on n'a pas, tu sais, on se dit, est-ce que je dois quitter la communauté? Puis, tu sais, les autres personnes de la communauté savent pas nécessairement notre historique, l'historique de l'agresseur, puis l'historique de la victime. Puis il peut avoir des appuis de part et d'autre. Donc, ça peut être très difficile,
Ouais.
effectivement.
En même
C'est pour
temps,
ça, là, que vraiment, c'est important que nous, on éduque la femme à connaître ses droits, puis elle va pouvoir prendre une décision en connaissance de cause, puis en connaissance des conséquences. Il faut qu'elle fasse son propre choix en toute connaissance. Des fois, il y a des femmes qui choisissent de ne pas porter plainte, puis on respecte leur choix, mais on est là pour les appuyer, puis continuer à intervenir. C'est
Merci
tellement
beaucoup.
variable.
Merci d'avoir été là, Valérie Lapalme.
Au plaisir, merci de l'invitation.
Valérie qui est intervenante à la Maison des femmes sourdes de Montréal, interprétée par Sarah Hull. Merci, Sarah.